Bonsoir. Le 1er juillet 2017, la Cour pénale internationale a totalisé 15 ans. À cette occasion, l'un des responsables de l'unité de sensibilisation de la CPI en RDC a rappelé le principe de complémentarité comme étant l'un des principes fondamentaux de cette institution. Selon lui, la CPI n'exerce sa mission que si les tribunaux nationaux n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire. 15 ans après, quel bilan dresser du travail de la CPI? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Patrick Tchiboui. Bonsoir, monsieur Tchiboui.
Bonsoir.
Vous êtes assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale en RDC. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Vous êtes porte-parole du parti politique MLC. Maître Ruffin Louko, bonsoir.
Bonsoir, Alayronk.
Vous êtes avocat et chercheur en droits humains. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 1er juillet 2017, la Cour pénale internationale a totalisé 15 ans. C'est le 1er juillet 2002 qu'entrait en vigueur le statut de Rome qui crée cette juridiction. Le travail de cette institution internationale est apprécié différemment. Pour certains, la CPI a bien joué son rôle, tandis que d'autres estiment qu'elle est politisée étant à la solde des pays occidentaux. Plus de détails avec vous, Kéline Côté.
Cette institution judiciaire a été créée pour enquêter et poursuivre les auteurs des crimes graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Selon l'un des responsables de l'unité de sensibilisation de la CPI en RDC, cette cour n'exerce cette mission que si les systèmes nationaux, c'est-à-dire les tribunaux nationaux, n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité qui garantit la souveraineté des États dans la mesure où on reconnaît que c'est d'abord aux États de pouvoir poursuivre en premier lieu les auteurs des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. En 15 ans, 24 affaires ont été ouvertes devant la CPI. Parmi elles, il y a eu 9 condamnations et un acquittement. 6 suspects sont détenus par la Cour. À cela, il faut ajouter 6 affaires qui sont au stade du procès, 2 en phase d'appel, 3 en phase de réparation et 14 suspects qui sont encore en fuite parce que les mandats d'arrêt lancés à leur encontre ne sont pas encore exécutés. En ce qui concerne la RDC, au moins 6 Congolais ont eu affaire à cette cour. Il s'agit notamment de Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo, Bousko Taganda et Jean-Pierre Bemba. Les acteurs de la CPI se félicitent du travail abattu en 15 ans. Selon eux, de nombreuses victimes ont pu voir leur bourreau à la barre et parmi les dossiers traités par la Cour, la plupart ont été apportés par des pays africains. Cependant, pour plusieurs observateurs africains, il y a 2 approches. L'une tend à applaudir la CPI et l'autre consiste à la rejeter. Ceux qui la rejettent parlent d'une justice à 2 vitesses qui s'acharne sur les plus faibles et n'ose pas inquiéter les plus forts. En clair, la Cour est perçue comme un outil de géopolitique aux mains des Occidentaux.
Merci Kéline Kouté. Patrick Tchiboui, vous êtes assistant chargé de la sensibilisation de la Cour pénale internationale en RDC. Revenons sur ce bilan en chiffres. 24 affaires en 15 ans, 24 affaires ont été ouvertes devant la CPI. 9 condamnations, 1 acquittement, 6 suspects sont détenus par la Cour, 6 affaires qui sont au stade du procès, 2 en phase d'appel, 3 en phase de réparation, 14 suspects qui sont encore en fuite parce que les mandats d'arrêt lancés à leur encontre ne sont pas encore exécuté. Comment vous appréciez ce bilan?
Merci d'abord pour cette invitation et j'aimerais aussi saluer les autres invités qui sont ici sur ce plateau et les auditeurs qui nous suivent. Oui, 15 ans depuis que le statut de Rome de la Cour pénale internationale qui a été adopté le 1er juillet 2002 est entré en vigueur. Mais aussi, il faut savoir que d'abord, nous avons eu l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 et puis nous avons eu l'entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Pendant ces 15 ans, il faut reconnaître que la Cour pénale internationale s'est imposée sur la scène internationale comme étant une juridiction pénale de référence. Pendant ces 15 ans, il faut reconnaître que les attentes venant de la part des populations, pas simplement africaines, je parle des populations en général. Parce que comme je l'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions sur Radio Capi, lorsqu'il y a des événements qui se créent dans quelques coins du monde aujourd'hui, les premières réactions que nous avons des populations, c'est de se demander où se trouve la Cour pénale internationale. Donc il y a aujourd'hui une institution judiciaire pénale internationale qui est une référence auprès de laquelle des populations, des communautés, des citoyens, des victimes attendent énormément et même de fois un peu trop, parce que comme on le verra, la Cour, étant donné qu'elle est une institution judiciaire, elle est gouvernée par le droit qui est prévu par le statut de Rome, mais il y a ce réflexe, il y a cette attente. Cette attente, pourquoi ? Parce que effectivement, par rapport aux crimes graves qui sont commis, il y a un fort besoin de justice. Et c'est justement ce besoin de justice qui a justifié la création de la Cour pénale internationale, qui aujourd'hui, au regard du principe de complémentarité, donne un espoir pour les victimes. Avant la Cour pénale internationale, la répression des crimes n'était qu'une affaire des États. C'est comme ça que d'ailleurs le préambule du statut de Rome dit clairement qu'il est du devoir des États de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, en faisant de cela un rappel. Mais maintenant, avec la création de la Cour pénale internationale, si les États ne poursuivent pas les auteurs de crimes graves, maintenant les victimes ont un espoir devant la Cour pénale internationale. Donc pendant ces 15 ans, il y a cette référence qui est la Cour pénale internationale, dont l'existence sur la scène internationale impacte également le système national, parce que maintenant les États sont appelés, s'ils veulent, ne veulent pas voir l'action de la Cour pénale internationale, sont appelés à modifier leur législation interne afin de rendre compétent leur juridiction pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Mais ce qui est encore extraordinaire avec le statut de Rome, c'est que le statut ne dit pas simplement vous pouvez les poursuivre. Le statut dit que lorsque vous les poursuivez, vous devez les poursuivre en conformité avec le droit au procès équitable, notamment un certain nombre de garanties. Et le statut donne la possibilité à la Cour de rejuger une affaire une seconde fois, ce qui exerce une forte pression sur les États pour qu'il y ait une justice de qualité pour les victimes au plan interne. Et si ce n'est pas le cas, la Cour peut intervenir.
Alors, donc en 15 ans, la Cour pénale internationale est devenue une référence, dites-vous, mais vous êtes un peu habitué aux critiques concernant la politisation, le fait que la Cour ne soit que tournée vers des pays africains. 15 ans après, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations?
La Cour pénale internationale, en tant qu'une institution judiciaire, peut recevoir des critiques. Même les juridictions nationales, même dans les pays développés ou de référence, le plan judiciaire, leurs juridictions, leurs tribunaux ne manquent pas de recevoir des critiques. On l'a vu, surtout lorsque ces juridictions émettent des poursuites contre des politiciens d'un certain rang. Même dans ces pays, il y a des critiques qui sont formulées. On entend même ces mêmes critiques en disant le système judiciaire est politisé, même dans ces États. Donc, en tant que système judiciaire, la Cour pénale internationale peut recevoir des critiques, mais ce qui est fondamental, c'est la réponse à ces critiques. Lorsqu'on dit que la Cour est politisée, parce qu'elle s'en prend aux États africains, mais comment la Cour peut-elle être politisée si la majorité des affaires devant la Cour, notamment africaine, ont été déférées par les États partis eux-mêmes africains? Chose d'ailleurs qui est en cours.
De leur gré.
Ils ont utilisé un mécanisme prévu par le statut de Rome, et ça, on doit les encourager, parce que ces États, en saisissant la Cour, ont manifesté leur volonté de lutter contre l'impunité. La RDC a déféré la situation, la Centrafrique a déféré la situation, le Mali a déféré la situation, l'Ouganda a déféré la situation. Alors, à partir de ce moment, comment peut-on prétendre que la Cour s'acharnerait sur ces États, si ces États eux-mêmes ont déféré la situation devant la Cour pénale internationale? Mais maintenant, on va parler, par exemple, du Conseil de sécurité, mais sans pour autant entrer dans le fond du droit international public. Lorsque le Conseil de sécurité a déféré la situation en Libye et au Darfour à la Cour pénale internationale, le Conseil de sécurité l'a fait au nom des États membres des Nations Unies, y compris des États africains qui l'ont mandaté.
Mais tout en sachant qu'en parlant du Conseil de sécurité, il se pose quand même un problème du moment où certains membres permanents n'ont pas ratifié le statut de Rome.
Alors ça, c'est la particularité du statut de Rome. Le statut de Rome, justement, étant donné que c'était un traité international, un traité, on l'impose pas à un État. Il n'y a pas que les États membres permanents qui n'ont pas ratifié. Il y a beaucoup d'États qui sont pas des États permanents, qui ne sont pas forcément des États forts ou puissants, qui n'ont pas ratifié. Parce que tout État, par rapport à un traité international, au regard de la souveraineté des États, un État peut décider de ratifier ou non un traité international. Donc s'il y a des membres permanents du Conseil de sécurité qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, c'est leur droit. Mais il faut aussi ajouter que nous avons d'autres membres permanents du Conseil de sécurité qui ont ratifié le statut de Rome, comme la France et la Grande-Bretagne.
Ne serait-ce pas là le péché originel de cette Cour ?
Non, ce n'est pas le péché originel, parce que la création de la Cour par voie de traité est un des meilleurs mécanismes justement qui garantit la souveraineté des États.
Merci. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du parti politique MLC. 15 ans après, quel bilan dressez-vous du travail de la CPI ?
Écoutez, je vais d'abord remercier Radio Capi pour l'invitation. Je vais saluer aussi les camarades qui participent à la discussion. Écoutez, nous avons assisté ici à un laïus, une apologie de la Cour pénale internationale. Ça ne pouvait pas être autrement, parce qu'il s'agit bien du chargé de communication, du porte-parole, si je ne me trompe. Mais voilà, moi je vais relever trois choses. Il y a d'abord un problème au niveau de la perception. Le deuxième, c'est ce que moi je vais qualifier ici des pouvoirs du procureur. Et la troisième, c'est la portée du travail de la Cour pénale internationale. Alors pour revenir à la perception, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il est dans l'essence, dans la création même de la Cour pénale internationale, il est dit que les États qui ne sont pas en mesure d'assurer une justice équitable pour leurs ressortissants peuvent déférer leur pouvoir à cette Cour. Cela veut dire en d'autres termes que nous percevons la Cour comme une réponse à l'incapacité des Africains après les années d'indépendance, 50 ans, 60 ans d'indépendance, à se prendre en charge, à assurer le droit pour leur population, à les protéger, à les indemniser, le cas échéant. Donc pour moi déjà la CPI...
Réponse à l'incapacité des Africains ou des États?
Écoutez, vous savez, ici, je parle des Africains en général parce que, in fine, vous allez remarquer que tous les États incapables ont des gouvernements, ils sont soutenus. Il y a une bonne partie de la population qui soutient certains États défaillants, en dépit de la situation généralisée qui est mauvaise. Et donc, je préfère parler d'un échec africain que de se dire qu'à un certain moment, qu'après 60 ans d'indépendance, nous ne soyons pas en mesure non seulement d'organiser le droit et la justice, mais d'indemniser, de punir le cas échéant lorsqu'il y a des situations qui surviennent en rapport avec les droits de l'homme dans le pays. Bon, ça, c'est au niveau de la perception. Le deuxième élément de la perception, c'est qu'effectivement, en raison de cette irresponsabilité, nous voyons très bien que sur 10 cas, vous avez 9 cas d'Africains noirs qui sont traités à la CPI, alors qu'il y a des situations beaucoup plus graves dans certaines parties du monde. On va peut-être pas les évoquer ce soir, mais on voit très bien qu'il y a une forme d'acharnement. Alors je parle de la perception. On a vraiment l'impression que lorsque une cour dite internationale a dans son agenda sur 10 cas, elle a 9 cas d'Africains, on a vraiment l'impression que le mal sur la terre ne se passe qu'en Afrique. Ça veut dire que la violation flagrante des droits de l'homme est une affaire strictement africaine. On africanise finalement, ou on pénalise les Africains du fait que l'on considère que dans cette partie du continent, il y a les plus grandes exactions.
Donc, en parlant du pouvoir du procureur, Jean-Jacques Mamba, voulez-vous dire que le procureur ou Madame la procureure de la CPI a trop de pouvoir?
Non, j'en viens. Là, je parlais de la perception. Le deuxième point, c'est par rapport au pouvoir. La procureure a ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire, contrairement au ministère public, qui a l'obligation, lorsque les conditions sont réunies, d'établir à charge des faits et d'instruire. La procureure a la latitude, ou le procureur a la latitude, et n'a pas l'obligation d'instruire lorsqu'il y a même des faits. Prenons le cas de la RCA avec notre président national, M. Jean-Pierre Bemba, dont vous aviez M. Patassé, vous aviez M. Bozizé, mais M. Moreno, à l'époque, avait la latitude, en raison d'un pouvoir dit discrétionnaire et qui peut être sujet à de la subjectivité, de dire, et il avait même dit lors d'une conférence, que moi je vais choisir les gros poissons. Cela veut dire qu'il n'a pas résolu le problème de la Centrafrique, le cas de notre sénateur, M. Jean-Pierre Bemba, fait à peu près 10 ans, mais pendant les 10 dernières années, il y a eu des tueries, il y a eu des viols, eu des massacres, et comme il y a un pouvoir discrétionnaire, il peut ne pas avoir l'obligation de poursuivre, dont je parle de Mme Bensouda, alors que le problème de la justice, c'est aussi de réparer, mais aussi d'apporter des solutions en projection. Donc il ne suffit pas d'épingler, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier ici de gros poissons, ce qu'il a qualifié de gros poissons, mais il faut aussi s'assurer que les mesures prises vont inciter à l'amélioration du climat, et malheureusement pour la Centrafrique, la situation s'est dégénérée. Donc on a bien vu que le choix fait de ne choisir qu'une personne qui n'était même pas concernée, donc je parle de la personne de M. Jean-Pierre Bemba, et de laisser l'auteur ou le co-auteur ou la personne qui a même invité les troupes, M. Patassé, de laisser M. Bozizé tranquille après 10 ans, n'a pas porté ses fruits. Donc ça, c'est en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire. Mais il y a aussi un problème avec le pouvoir dans la collecte des informations. Vous savez, lorsque vous êtes un politicien, vous êtes chef d'État, que vous avez un adversaire qui ne vous plaît pas, lorsqu'on parle de l'État, il faut voir si déjà en Afrique, il y a des États dignes de ce nom. Donc lorsqu'une personne met les moyens de l'État pour faire collecter des informations parce qu'il a besoin de couler son adversaire ou de couler une personne qui le gêne, si le procureur s'en prévaut pour dire, bon voilà, moi j'ai des informations qu'elle a collectées d'une manière encore discrétionnaire, ça pose un problème d'équité. Et regardez, même dans le procès de M. Jean-Pierre Bemba, la procureure, Mme Bensouda, a eu même la possibilité de mettre la partie adverse, donc la partie défenderesse, sous écoute, toujours au nom du pouvoir discrétionnaire. Donc moi, je pense que ce pouvoir a été très, très mal encadré. Et dès lors qu'il est très mal encadré, il donne lieu à des interprétations, comme vous voyez les critiques sur la politique et tout ça, on politise la CPI, c'est parce que ce pouvoir-là, il est mal encadré et la subjectivité du procureur peut à tout moment être mise en cause dans le choix des personnes qu'elle veut poursuivre.
Alors le troisième point, c'est la portée du travail de la CPI.
Mais écoutez, regardons la portée. Il y a le cas sur la Centrafrique, il y a 2, 3, 4, 5 cas. Quelle est la situation de ces pays aujourd'hui? Dites-moi aujourd'hui, on va dire qu'on a arrêté M. Jean-Pierre Bemba, que moi je considère encore jusqu'à preuve du contraire innocent, mais quel est l'impact de cette action aujourd'hui sur la situation de la Centrafrique? Quelle sera la portée de ce travail sur la situation de la gestion des pays africains en termes de droits humains? Est-ce que c'est parce qu'il y a assez pays que les gens vont arrêter, ou simplement qu'à un certain moment, n'importe quel chef d'État qui peut avoir fait 20 ans au pouvoir en violation de toutes les règles de son pays peut déférer devant la justice une personne qui le gêne au nom, entre guillemets, de l'incapacité de son État à gérer la situation.
Et donc, en un mot pour vous, 15 ans après, le bilan est négatif.
Pour moi, c'est de l'argent gaspillé. Je pense que les Africains doivent, à un moment donné, nous devons devenir responsables, nous devons nous prendre en charge, nous devons avoir la possibilité Merci. Non seulement de sanctionner, mais de gérer cet aspect des droits de l'homme.
Merci. Maître Ruffin Louko, vous êtes avocat et chercheur en droits humains. Maître, quelle est votre analyse à vous concernant le bilan de la CPI 15 ans après?
Ok, merci. Merci Alain. Bon, il faut commencer d'abord par constater que 15 ans après, c'est pas suffisant pour évaluer une justice internationale qui a commencé. Avant ça, n'est-ce pas, les gens ont commis des crimes graves, ont disparu, se sont délocalisés, sont allés en Afrique, en Amérique du Sud, sont allés à Groenland, etc., sont allés disparaître, changer d'identité au Japon, en Chine et partout. Et on fait 50 ans d'impunité. Maintenant, il y a une justice pénale internationale. Le développement est énorme. Il faut donc féliciter cet avènement. Et cette justice concerne tout le monde. Chefs d'État, chefs d'État-major, généraux, politiciens, huissiers et consorts, quelles que soient ces personnes-là, s'ils sont impliqués dans ce qu'on appelle les crimes internationaux, les crimes graves, où qu'ils iront, où se cacheront, n'est-ce pas, une justice pénale les atteindra.
Mais maître, en parlant de cet aspect-là, il y a des chefs d'État qui ont été à la base du désastre en Libye, en Syrie, et qui ne sont pas inquiétés jusqu'à ce jour, par exemple.
Nous y arrivons. Là, c'était juste planter le décor. Maintenant, parlons du bilan RDC, ces pays RDC. Considérez et rappelez-vous que la RDC n'a pas ratifié gratuitement. Nous ne sommes pas des missionnaires. Nous avons ratifié le statut de Rome après des négociations, après des contacts. La CPI s'était même engagée de nous appuyer notre système judiciaire. Il y a des arrangements par rapport à ça. 15 ans après, rien n'a été fait. Nous avons été le pays qui a permis au statut de Rome d'être opérationnel. C'est-à-dire, nous avons fait la ratification qui manquait. C'est la RDC. Nous avons été ensuite le pays qui a donné la matière à la CPI. Nous sommes le premier pays qui a donné nos citoyens comme cobayes de laboratoire pour la CPI. Donc, nous méritons mieux qu'un simple bilan. D'ailleurs, ce bilan ici devait être fait en principe par notre Parlement, à marge de ce que le gouvernement ferait. Nous avions déploré sur ces antennes que nous sommes les seuls pays qui collaborent avec la CPI et au ministère de la Justice, il n'y a pas une direction justice pénale internationale. Il n'y en a pas. Donc nous sommes restés dans les anciens systèmes de ce ministère de la Justice qui a commencé comme direction de la Justice à l'époque coloniale. Rien n'a changé. Maintenant, au niveau de l'auditorat militaire, nous avons un point focal. Mais au ministère de la Justice, au ministère de la Défense, on devait avoir une direction de justice pénale internationale.
Alors, 15 ans après Maître Ruffin Louko, la RDC devrait-elle regretter ou se réjouir d'avoir ratifié le statut de Rome?
D'abord parce que la CPI n'a pas fait sa part. C'était la coopération.
Comment?
Ça veut dire le renforcement de notre capacité. La CPI gère des millions par rapport à notre justice. Notre capacité fonctionnelle devait être appuyée et renforcée par la CPI. Voyez-vous,
est-ce qu'on ne crierait pas à l'ingérence à ce moment-là, comme non, c'est le cas, mais lorsque, on est un État souverain,
non, attends,
la justice...
Lorsque la MONUSCO nous bâtit quelques pots par-ci par-là, lorsque la MONUSCO procède à la réhabilitation de quelques prisons par-ci par-là, c'est l'ingérence? Lorsque la MONUSCO aide la CENI à transporter les kits par-ci par-là, c'est l'ingérence? Donc ça veut dire, c'était des engagements, ça n'a pas été fait. Hélas, nous avons besoin de faire des évaluations chaque fois. Les engagements que nous prenons, nous devons faire des évaluations. Alors, en ce qui concerne la façon dont cette justice a été rendue pendant 15 ans, hélas, les cobayes que nous avons constitués, ça veut dire nos compatriotes qui sont allés à la CPI, que nous avons envoyés à la CPI comme première matière didactique, c'est un scandale que Jean-Pierre Bemba, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006 et jusqu'à son jour, ne puisse pas bénéficier d'un procès équitable. Là, je parle comme chercheur, donc je n'ai rien à foutre avec des considérations partisanes des militants.
La lenteur des procédures.
Détention préventive pendant plus de 7 ans, c'est un scandale. Donc, c'est dit jamais vu dans toute justice de la France, des États-Unis, détention préventive de 2006 à 2017, eh bien, ça dépasse tout entendement. Alors, lorsque vous ajoutez les Lubanga et les Ngujolo, les Katanga et consorts, non, ça fait très mal, parce que, c'est-à-dire, il faut que nous, tu sais, il y a eu la conférence qui s'est passée en 2010 à Ouganda pour la modification du statut. Nous devrions être parmi les États qui revendiquent la modification de certaines clauses ou de certaines dispositions du traité de Rome. Parce que nous sommes la première victime et la première bénéficiaire, celle qui aurait été comme nation la première bénéficiaire.
Alors, mais est-ce que la RDC en est consciente?
Et là, je vous dis, il n'y a pas de direction de la justice pénale internationale au ministère de la Justice, encore au ministère de la Défense. Donc, nous n'avons pas suivi dans nos structures en termes d'adaptation pour que nous puissions donner le signal aux autres que nous avons besoin, n'est-ce pas, que vous fassiez notre travail, nous avons fait notre part. Donc, cette conscience, hélas, lorsqu'elle n'est pas là, nous en sommes là où nous en sommes. Donc, nous sommes des scientifiques, notre travail, c'est de lancer l'arrêt. Il faut que les procédures puissent être modifiées. C'est-à-dire, il faut que la liberté provisoire, Jean-Pierre Bemba, rien n'a manqué pour qu'on le retourne chez nous, à défaut d'avoir trouvé là où on pourrait l'amener pour sa liberté provisoire. Katanga, la même chose, Ngonjolo, la même chose, et merci, tous les autres. Donc, bref, nous avons là, n'est-ce pas? Nous sommes à une courbure où nous faisons l'évaluation en tant que médias, en tant qu'analystes. Merci. Mais il faut que les institutions également puissent évaluer l'impact de la CPI dans notre pays.
Merci, Maître Ruffin Louko. Patrick Tchibouyi a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Moi, c'est Jonathan Moliba depuis Kinshasa. Je pense que le travail de la CPI est au-dessus de l'attendement. Nous avons la nette impression que la CPI a été créée seulement pour les Africains. Depuis longtemps, elle nous dit qu'elle a ouvert les enquêtes dans d'autres pays, mais ces enquêtes n'aboutissent pas de suite. Et visiblement, la CPI n'est pas juste dans sa manière d'ouvrir les enquêtes et même dans les procès. Le cas Jean-Pierre Bemba est un exemple frappant. Je suggère même que l'on change le nom. Il faudrait qu'on l'appelle Cour pénale africaine. Ça sera juste vu comment elle traite les affaires africaines au lieu de la Cour pénale internationale.
J'ajoute cette réaction de Candelar Kitoko qui dit « Le bilan est négatif à mon avis. Plusieurs crimes horribles en RDC en Afrique, commandités par les Occidentaux et les multinationales, ne sont pas pris en compte et la lenteur dans le traitement des dossiers pose problème. » Patrick Tchibouyi.
Oui, merci beaucoup pour ces questions. Ça me permet aussi de répondre un peu à quelques propos tenus par les autres collègues qui sont sur ce plateau. La Cour pénale internationale, il faut être clair là-dessus, la CPI n'a pas été créée pour les Africains. Même au niveau certes, heureusement, on parle de perception, mais cette perception, justement...
Une mauvaise perception.
C'est une mauvaise perception, d'où la nécessité, justement, de gens des missions pareilles pour pouvoir mieux expliquer. Tout État parti, quel qu'il soit, aujourd'hui, nous avons 124 États, pas simplement des États africains. Tout État parti qui lui-même peut poursuivre les auteurs des crimes graves se verrait avoir la primauté pour ces poursuites. Ça n'a rien à voir avec un État venant de l'Afrique ou pas. Tout État. Ce principe de complémentarité. Et je reprends un peu la phrase de M. Jean-Jacques Mamba lorsqu'il dit par rapport, il est temps que les États africains se prennent en charge pour assurer les questions des droits de l'homme. C'est ça même la raison d'être du principe de complémentarité. C'est ça le sens du principe de complémentarité. Le principe de complémentarité, je veux justement que ce soit les États eux-mêmes qui puissent en premier lieu poursuivre les auteurs de crimes, des crimes graves, des crimes internationaux. C'est pourquoi on parle aujourd'hui maintenant de complémentarité positive. Et la CPI pousse les États eux-mêmes d'abord à poursuivre en premier lieu les auteurs des crimes internationaux. C'est ça véritablement le sens.
Et à ce niveau-là, vous avez suivi Maître Louko qui pense que la CPI a beaucoup de moyens mais n'a pas contribué à renforcer l'appareil judiciaire national, notamment en RDC.
Alors j'aimerais d'abord rassurer que la ratification du statut de Rome pour la RDC n'a pas été conditionnée par un quelconque arrangement lié notamment au renforcement des capacités. Non. La République démocratique du Congo a été représentée par des autorités pendant les discussions à Rome, la discussion à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998, la RDC a ratifié par la suite le statut de Rome. Il n'a jamais eu un arrangement quelconque justifiant ou étant à la base de la ratification de la RDC, conditionnée par le fait que la CPI devrait apporter un renforcement de capacité quelconque. Aucun. Il n'y en a pas d'arrangement dans ce sens. Mais le statut de Rome prévoit la possibilité, d'une part d'abord, les États ont l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale, mais le statut dit aussi que les États peuvent recevoir l'assistance venant de la Cour pénale internationale. Donc un État qui mène des enquêtes sur les crimes internationaux et qui penserait que la CPI, le bureau du procureur, pourrait l'aider, le statut prévoit cette possibilité. Elle est prévue. Mais il n'y a pas de conditions liées au renforcement de capacités qui seraient exigées comme arrangement entre la RDC et la Cour pénale internationale qu'on devrait évaluer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un arrangement dans ce sens-là. Nous avons simplement un accord de coopération et même l'accord de coopération avant que la nouvelle loi soit établie, cet accord ne stipulait même pas un quelconque renforcement de capacité. Et pour ce qui est de la durée des procédures, pour ce qui est de l'équité des procédures, j'aimerais vous rappeler ici que nous avons eu 9 condamnations et un acquittement. Mathieu Ngoudjolo est acquitté. Et j'aimerais aussi rassurer les auditeurs que certes, le procureur de la Cour pénale internationale, comme dans toute juridiction nationale, c'est le ministère public, c'est le parquet qui mène les enquêtes, mais dans le système de la Cour pénale internationale, ce sont les juges. Certes, le procureur est indépendant, mais ce sont les juges de la Cour pénale internationale qui ont la grande responsabilité. Lorsque le procureur mène les enquêtes, qu'il identifie qui peut être poursuivi, le procureur vient demander un mandat d'arrêt ou une citation comparaître à des juges. Ce n'est pas le procureur qui délivre le mandat d'arrêt, ni la citation comparaître. Et les juges peuvent refuser. Si les conditions exigées pour le mandat d'arrêt ou la citation comparaître ne sont pas établies, les juges peuvent refuser. Et lorsque le mandat d'arrêt et la citation comparaître a été libéré, pour que le procès puisse avoir lieu, ce sont encore les juges qui doivent confirmer ou non les charges. Et si les charges sont confirmées pendant le procès, c'est encore les juges qui vont établir la culpabilité ou non d'une personne qui est poursuivie. Donc les juges sont là et le procureur n'est pas le tout-puissant devant la Cour pénale internationale.
Que je ne donne la parole à Jean-Jacques Mamba, vous allez répondre très brièvement, Patrick Tchibouyi. On a le cas de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, où le commun des mortels a l'impression que la Cour pénale internationale ne fait absolument rien.
Alors, très bonne question. D'abord, je voudrais informer les auditeurs qui ne le savent pas que concernant la Géorgie, le procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative en Géorgie, qui n'est pas un pays africain. Et dans d'autres situations, comme l'Irak, nous sommes encore dans la phase d'analyse préliminaire. Mais pour la Syrie, on ne peut pas avoir d'enquête en Syrie parce que la Syrie, c'est un État non-parti. Et ceux qui peuvent être poursuivis éventuellement en Syrie, ce sont les Syriens non ressortissants d'un État non-parti. Faut, pour des enquêtes, une saisine par le Conseil de sécurité. Et c'est ce que la Cour attend éventuellement si le Conseil de sécurité décide de le saisir pour la Syrie.
Merci. Jean-Jacques Mambaya, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Lissala.
Depuis Lissala à Mongala, ingénieur Félix Moussaka. À mon avis, le bilan de la CPI est largement positif. Elle exerce sa mission comme il se doit. Parmi les affaires que la CPI a traitées durant ses 15 ans d'existence, il y a eu impartialité et je crois que cette institution mérite sa raison d'être pour lutter contre l'impunité qui a eu libre domicile en Afrique. Je salue les actions menées par la CPI et je recommande à la CPI de poursuivre les acteurs politiques africains qui violent la constitution et les droits humains pour raison de se maintenir au pouvoir.
Jean-Jacques Mamba.
Écoutez, je vous remercie pour votre réaction et je comprends très bien que nous sommes dans un pays démocratique, donc vous pouvez réfléchir comme vous venez de le dire là et je le respecte parfaitement, mais je vais continuer mon propos en parlant de la portée du travail de la Cour. Je vais donner des exemples parce qu'on parle de la Géorgie, on parle de l'Irak et ainsi de suite. Revenons au Congo. En 2015, il y a eu mort d'homme. Fausses communes. Nous avons eu des fausses communes actuellement au Kasaï. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères faire le tour du monde pour que nous n'ayons pas une enquête internationale clamant que notre pays est souverain et que nous avons une justice capable de gérer les cas. Pour le cas de M. Jean-Pierre Bemba, la justice se déclare incompétente. Je vous donne un bête exemple. M. Babala doit bénéficier, l'honorable Babala doit bénéficier d'une liberté provisoire. On s'en réfère à l'État pour voir s'il a la capacité de le recevoir et l'État répond que je ne suis pas capable de le faire. Donc on n'est pas capable de recevoir M. Babala qui est un honorable qui n'est pas criminel, mais on a la capacité de gérer les évasions dans les prisons et ainsi de suite. Ça veut dire que quelque part nous avons un État qui est frappé d'amnésie sélective et la question est de savoir, lorsque je parle de la portée, est-ce que nous avons des États dignes de ce nom? Parce que lorsqu'on parle de l'État, on parle de responsabilité. Si vous avez un groupe d'individus qui à un certain moment peuvent conserver le pouvoir de toutes les manières et que vous considérez que ce groupe d'individus et votre interlocuteur valable pour prévaloir ou pour défendre les victimes qui subissent des abus en termes de droits de l'homme, alors en ce moment-là, toute la démarche est faussée. Raison pour laquelle nous disons que, pour moi, c'est un gaspillage d'argent et de moyens. Aussi longtemps que nous n'avons pas d'État responsable, des États impartiaux, des États qui prennent leurs responsabilités en matière de respect des droits de l'homme, en matière de gestion, en matière de gouvernance, je crains que la CPI ait en face d'elle des interlocuteurs qui ne soient pas valables et dans tous les cas, le principe discrétionnaire du pouvoir de procureur sera toujours sujet à des critiques quant à sa subjectivité parce que moi je peux vous le dire, Madame Bensoudé est venue ici deux ou trois fois, elle dit qu'elle va analyser, mais je peux vous dire ici que les cas évoqués dans le Kasaï, les cas évoqués en 2015 sont beaucoup plus graves que ceux qui ont été évoqués en République centrafricaine. J'ai été à la CPI moi-même, j'ai suivi le procès. D'abord, il n'y a pas de preuves. Des personnes allèguent avoir été violées ainsi de suite. Ok, ce sont des choses répréhensibles pour autant qu'on démontre réellement que ce sont des troubles du MLC. Mais comparativement à la situation que nous avons ici, avec des vidéos à l'appui, je crains très fort que le pouvoir discrétionnaire de Madame Bensouda soit très sélectif. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de continuer à espérer dans de telles institutions.
Jean-Jacques Mamba, il y a des experts en droit international qui estiment que pour évaluer le bilan de la CPI, il faut tenir compte de tous les procès nationaux qui ont eu lieu du fait de la pression exercée par la Cour. Avez-vous tenu compte de cet aspect dans votre évaluation?
Écoutez, je ne suis même pas là pour évaluer. Je suis en train de dire déjà que dans ma perception, ce sont des institutions qui ne devraient pas exister. Pour nous les Africains, nous devrions nous prendre en charge, comme je vous le dis. Donc je ne suis pas dans une forme d'évaluation, mais c'est une critique acerbe sur ce que j'ai pu observer ces 10 dernières années. On vient de soulever ici le problème de la détention préventive. Monsieur Bembe est resté en détention préventive plus de 6 ans. Si la justice internationale, c'est le paradigme de du laxisme judiciaire, ça veut dire que bon, voilà. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous le scénario, il est déclaré innocent. Qu'en dites-vous de sa famille? Qu'est-ce que vous faites pour sa famille? Comment sera-t-il indemnisé? Toutes les années qu'il aurait passé ici en train d'aider son pays à participer au débat politique, il les passe en train d'attendre M. Moreno qui passe le relais à Mme Bensouda, qui, elle, allonge les procédures parce qu'elle a un pouvoir discrétionnaire, y compris celui d'entendre la partie défenderesse, de la mettre sous écoute. Donc moi, ce que je dis ici, c'est que c'est un appel vibrant à tout le monde. Je ne suis pas en train spécifiquement de plaider pour le cas de M. Jean-Pierre Bemba. Mais je dis qu'aujourd'hui, M. Kabila ne sera pas là, il y aura un autre État. Il faudrait que les Africains se prennent en charge et assurent l'impartialité de l'État et son efficacité.
Merci. Maître Ruffin Louko, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira.
C'est ingénieur Biamungu Zembezembe, Jean-Pierre, depuis Ouvira, Sud Kivu. L'Afrique devait se mobiliser et se retirer de cette cour, car elle règne que par injustice.
Kadhafi, Saddam Hussein et d'autres chefs d'État africains et du Moyen-Orient sont pendus, exécutés et condamnés arbitrairement par les Occidentaux, mais la Cour s'était. Les États-Unis ne sont pas signataires de l'accord de Rome, mais la CPI vit de ses fonds. Il est à noter que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, raison pour laquelle il s'impose à cette Cour, privilégiant le panafricanisme.
Maître Ruffin Lougo, privilégiant le panafricanisme, c'est pratiquement le discours de Jean-Jacques Mamba.
Monsieur Biamongo, merci pour votre réaction. Ça me permet de répondre également au démenti que Monsieur Tshibouya a fait de ma déclaration. Bon, c'est retiré. D'abord, je vais rappeler ici à l'opinion que jusqu'à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, nous avions refusé, n'est-ce pas, de ratifier ce statut qui avait, n'est-ce pas, été signé en 97. Donc, nous avions refusé. Et puis, Patrick, ce n'est pas à lui que je vais rappeler qu'il n'y a pas de traité qu'on ratifie sans négociation. Il n'y en a pas. Tout traité qu'un pays doit ratifier, il y a des négociations. Et j'ai parlé comme ancien conseiller juridique et porte-parole du ministre de la Justice. Je l'ai été pendant environ 7 ans. Il y a eu des négociations. Bon, je ne veux pas discuter là-dessus. Il y a eu des engagements. Nous n'avons pas fait les cobayes pour rien. Nous étions le pays... Nous n'avions pas accepté de faire le combat et pour rien. Nous étions le pays qui, sans notre ratification, tilelo, comme on dit par les Quinois, jusqu'aujourd'hui, il n'y aurait pas ratification, il n'y aurait pas entré en vigueur en 2002 du statut de Rome. Et donc, on peut se retirer si on estime que ce n'est pas famé. Et lorsque l'on donne des critiques de la politisation de la CPI, hélas, ma thèse de doctorat porte là-dessus. Le cas de Laurent Gbagbo. Où la cour, donc les juges ont décidé sa liberté provisoire. Le procureur a refusé qu'il soit mis à liberté provisoire. Et les chercheurs ont creusé de voir l'implication de la France en tant que gouvernement politique pour que Gbagbo soit maintenu là-bas. Parce qu'on sait que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, celui qui a été mis là-bas par la France, ça sera une trouble faite. Donc, trouble de jouissance si Gbagbo rentre. C'est comme on voit maintenant Ouad est rentré et que ça trouble la jouissance de Macky Sall.
Au Sénégal.
Bon, là, lui, il rentre librement parce qu'il n'était pas à la CPI. Donc, l'instrumentalisation de la CPI actuellement
est une réalité.
Hélas. Par qui? Par ceux qui financent son fonctionnement. Nous les constatons chaque jour. Si la CPI était libre, ceux qui sont partis, les Ngoudjo, les Katanga, qui sont partis là-bas comme renseignants et qui se sont retrouvés sous les liens et qui ont demandé l'asile aux Pays-Bas et qu'on a renvoyé ici, vous voyez les risques pour eux de venir au pays après avoir témoigné d'une manière ou d'une autre contre les institutions. Donc bref, si cette cour était... rien que judiciaire, ces aspects-là, ces aléas-là n'auraient pas été. Donc, en ce qui concerne maintenant c'est la proposition de... Je peux donner des articulations. D'ailleurs, à l'époque, vous savez, c'est dans le cadre de tous ces contreparties et consorts. En principe, c'est la RDC qui aurait dû donner le prochain procureur après Moreno. À la place de Mensouda, c'était la RDC.
En vertu de quel principe?
Alors, est-ce que Mensouda est là en vertu de quel principe? C'est par rapport aux différentes, ce qu'on appelle les règles non écrites. Le monde, les relations internationales ne sont pas gérées seulement par des traités. Il y a ce qu'on appelle la coutume et les règles non écrites. Donc, bref, nous aurions dû être le pays qui donne le prochain procureur après Moreno Ocampo. Nous étions même, l'ancien ministre de la Justice à l'époque, nous aurions dû être procureur aujourd'hui de ce pays. Mais parce que la politique de notre pays a estimé que non, on ne pouvait pas les lâcher à l'époque. Donc, pour dire tout simplement que nous avons des revanches. Chez nous, au village, on dit que tout celui qui réclame un héritage, si vous le voyez crier pour un héritage, et si vous vérifiez bien, c'est qu'il y a droit, merci, quelque part. Nous réclamons sur l'héritage de la CPI parce que nous y avons droit, et notre droit procède du fait que nous avons été le pays cobaye. Ensuite, nous avons été le pays qui a donné la ratification, qui a donné vie
merci,
à la CPI.
Merci, maître.
Nous pouvons encore aller et bien plus
merci,
encore.
Merci, maître Louko. Donnons la possibilité à Patrick Tshibouya de vous répondre. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer. Patrick Tshibouya, répondez directement à maître
Louko. Oui, très directement. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Lorsque le procureur, par exemple, refuse la liberté provisoire qui est demandée par un accusé, mais il peut, mais qui décide au final? Ce sont les juges. C'est la même chose ici devant les juridictions nationales. Le parquet peut afficher sa position en disant que je ne suis pas d'accord que cette personne obtienne la liberté provisoire pour les raisons si évoquées prévues par le statut de Rome. Mais au final, qui décide? C'est le juge de la Cour pénale internationale. Donc il n'y a pas d'instrumentalisation de la part de la Cour, de la part des États. Aucune instrumentalisation.
Patrick Tibouille, et tout ce que la RDC devait donner en termes de compensation en un mot?
Il n'y a pas eu d'arrangement ou d'accord. D'abord, je voudrais vous informer que nous avons aujourd'hui un juge congolais. Mais un juge congolais, pas parce que même le terme cobaye n'est pas le terme approprié. Nous avons un juge congolais, pas suite à un arrangement quelconque, parce que la RDC a pris en certaine candidature, les autres États l'ont accepté, on a eu un juge. On ne peut pas parler d'automatisme de cobaye, non.
Jean-Jacques Mamba, vous
n'a pas été présenté par le gouvernement.
Maître Louko, vous aurez la parole.
Le juge congolais n'a pas été présenté par le gouvernement.
S'il vous plaît, Maître
Louko. Je vous donne
un détail. Jean-Jacques Mamba.
Il est venu là-bas par lui-même.
Maître Louko, s'il vous plaît, Jean-Jacques Mamba, vous avez appelé les États africains à se prendre en charge, mais en même temps, vous fustigez la déliquescence de ces États, la faiblesse, l'échec pratiquement de ces États. Vous ne dites pas la chose et son contraire, là.
Bien sûr que non, parce que vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui regorge des ressources naturelles les plus abondantes et effectivement qui est aussi le plus pauvre du monde. Ça veut dire que ici, nous sommes en train de travailler, ici, nous sommes en politique, c'est pour l'avènement des États responsables, des États impartiaux qui sont capables, effectivement, de gérer des questions de gouvernance, de droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, ça paraît comme un pléonasme, je vous le concède, mais dans tous les cas, nous n'allons pas tomber dans la fatalité. Nous continuons à croire qu'il y a des possibilités avec des gouvernants responsables d'avoir des États, de dératifier le traité de Rome, de revenir sur la justice nationale et au sommet de l'État à prendre la sanction. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est un pays où l'impunité est a été consacrée. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement qui n'arrive même pas à punir les clowns en cravate, qui n'arrive pas à punir ceux qui détournent les fonds, peut aujourd'hui être l'interlocuteur valable pour déférer devant les justices, les cours et tribunaux internationaux, entre guillemets, des personnes qui gênent. Et j'aimerais bien revenir sur les juges. Prenons le cas de Monsieur Bemba. Vous avez trois juges en première instance qui juge une affaire militaire alors qu'aucune d'entre elles n'a la compétence militaire. Donc on peut bien parler des juges, on peut bien parler de comment les juges sont arrivés, comment ils ont été élus, ainsi de suite, mais là n'est pas la question est de savoir une affaire qui n'est pas faite au Congo. Si vous laissez au procureur la liberté de choisir ou de ne pas choisir qui poursuivre, nous tombons dans la subjectivité et tous les derniers cas qui se passent au Congo montrent à suffisance...
Et en guise de conclusion.
Je ne vais quand même pas lancer des fleurs à la CPI, donc vous avez bien vu que je tire dessus, parce qu'en ce qui me concerne, si j'étais président de la République, nous allions dératifier, mais il faut, et je le dis encore une dernière fois, que les États, les vrais États africains s'érigent et qu'ils prennent en charge toutes les questions liées aux droits de l'homme, comme celles de gouvernance.
Maître Louko.
Nos interventions ici, c'est pas pour jeter le aura au loni sur la CPI, mais nous constatons comment elle fonctionne. Par exemple, prenez cet exemple. C'est lui qui réclame qu'on lui extrade les fils de Kadhafi. C'est la CPI. Mais qui a ouvert les portes de l'enfer pour que la Libye soit ce qu'elle est aujourd'hui?
C'est la France.
C'est Sarkozy et David Cameron. Mais qui s'y intéresse? Pour voir l'aspect politisation des actions du procureur. Hélas, je peux citer comme ça plusieurs exemples. Et je n'aurai pas de contredit. J'aimerais juste conclure en disant tout simplement que, parce que ça c'est un échange, nous ne sommes pas là pour un pigilat, comme l'avait dit un ancien secrétaire général de l'IMLC. Nous ne sommes pas là pour... Nous sommes pour des échanges, n'est-ce pas, scientifiques. La CPI doit quitter cette uniforme, cette varèse, la politique, pour devenir une cour judiciaire. Et en particulier, le procureur, c'est important. Et nous, la RDC, nous avions droit à avoir un procureur. Je veux rappeler à le juge, donc je peux même donner le nom, qui est à la CPI, a donné sa candidature comme tout le monde, comme tous les Congolais qui se débrouillent dans le monde ce n'est pas le gouvernement congolais qui l'y a présenté. Et nous sommes fiers d'avoir des Congolais qui, partout où ils sont partis, soient qualifiés, n'est-ce pas, à nous représenter.
Merci, maître.
Mais lui ne vient pas de Kinshasa ou ne vient pas de nos institutions pour aller nous représenter comme,
merci,
notre, comme notre magistrat, notre colonel Mutanzini est parti nous représenter en
Centrafrique. Merci, maître.
C'est lui qui est à la CPI, c'est différent.
Merci,
de,
maître.
De celui-là.
Patrick Tchibouye, un mot pour terminer.
La Cour pénale internationale est une institution judiciaire qui donne espoir. Pensons aux victimes des crimes internationaux. C'est l'élément fondamental. Elle est complémentaire, elle ne vient pas remplacer le système national, mais elle est un espoir pour les générations présentes et pour les générations futures dans la lutte contre l'impunité. Pensons aux victimes.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Kéline Kouté, Beryl Uchaka, qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission sous la supervision de Pélékipé Lamondo. Jean-Claude Ancial a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Alain Rung-Mouché. Au revoir.